Paris, livre 2, chapitre 1. Dans cette rue écartée de Neuilly, où personne ne passait plus dès le crépuscule, la petite maison, à 7 heures, sous la nuit noire, dormait d'un sommeil profond. Les persiennes closes, sans qu'une lumière filtrât au dehors. Et il semblait qu'on sentît aussi, derrière, la grande paix du petit jardin, vide et mort, engourdi par le froid de l'hiver. Pierre, dans le fiacre qui le ramenait avec son frère blessé, avait craint plusieurs fois de le voir s'évanouir. Guillaume, adossé, affaissé, ne parlait pas. Et quel terrible silence entre eux, si plein des interrogations, des réponses, qu'il sentait inutile et douloureux d'échanger en ce moment. Pourtant, le prêtre s'inquiétait de la blessure, se demandait à quel chirurgien il allait avoir recours, désireux de ne mettre dans le secret qu'un homme sûr et dévoué, en voyant avec quel âpre désir de disparaître le blessé se cachait. Jusqu'à l'Arc de Triomphe, pas un mot ne fut prononcé. Là seulement, Guillaume sembla sortir de l'accablement de son rêve pour dire « Et tu sais, Pierre, pas de médecin, nous allons soigner ça tous les deux. » Pierre voulut protester, puis il n'eut qu'un simple geste signifiant qu'il passerait outre s'il le fallait. À quoi bon discuter en ce moment? Mais son inquiétude avait grandi. Et ce fut avec un soulagement véritable, lorsque le fiacre enfin s'arrêta devant la maison, qu'il vit son frère en descendre sans trop de faiblesse. Vivement, il paya le cocher, très heureux aussi de constater que personne, pas un voisin même, n'était là. Et il ouvrit avec sa clé, il soutint le blessé pour l'aider à gravir les 3 marches du perron. Une faible veilleuse brûlait dans le vestibule. Tout de suite, au bruit de la porte, une femme, Sophie, la servante, venait de sortir de la cuisine. Âgée de 60 ans, petite, maigre et noire, elle était dans la maison depuis plus de 30 années, ayant servi la mère avant de servir le fils. Elle connaissait Guillaume, qu'elle avait vu jeune homme. Sans doute elle le reconnut, bien qu'il y eût 10 ans bientôt qu'il n'eût franchi ce seuil. Mais elle ne témoigna aucune surprise, elle parut trouver tout naturel cet extraordinaire retour dans la loi de discrétion et de silence qu'elle s'était faite. Elle vivait en recluse, elle ne parlait que pour les strictes nécessités de son service. Elle se contenta de dire « Monsieur l'abbé, il y a dans le cabinet Monsieur Berthe-Roy qui vous attend depuis un quart d'heure. » Guillaume intervint d'un air ranimé. « Berthe-Roy vient donc toujours ici ? Ah, lui, je veux bien le voir, c'est un des meilleurs, un des plus larges esprits de ce temps. Il est resté mon maître. » Ami autrefois de leur père, l'illustre chimiste Michel Froment, Berthe-Roy était aujourd'hui, à son tour, une des gloires les plus hautes de la France, à qui la chimie devait les extraordinaires progrès qui en ont fait la science mère, en train de renouveler la face du monde. Membre de l'Institut, comblé de charges et d'honneurs, il avait gardé pour Pierre une grande affection. Il le visitait ainsi parfois avant le dîner, avant de se distraire, disait-il. « Tu l'as mis dans le cabinet ? Bon, nous y allons, » dit l'abbé à la servante qu'il tutoyait. « Porte une lampe allumée dans ma chambre et prépare mon lit pour que mon frère puisse se coucher tout de suite. » Pendant que, sans une surprise, sans un mot, Sophie exécutait cet ordre, les 2 frères passaient dans l'ancien laboratoire de leur père, dont le prêtre avait fait un vaste cabinet de travail. Et ce fut avec un cri de joyeux étonnement que le savant les accueillit, lorsqu'il les vit entrer, l'un soutenant l'autre. « Comment, ensemble ? Ah, mes chers enfants, vous ne pouviez me faire de bonheur plus grand !» « Moi qui ai si souvent déploré votre cruel malentendu. » Septuagénaire, il était grand, sec, avec des traits anguleux. La peau jaunie se collait comme un parchemin sur les os saillants des joues et des mâchoires. D'ailleurs, sans aucun prestige, il avait l'air d'un vieil herboriste. Mais le front était beau, large, uni, et sous les cheveux blancs et bouriffés luisaient encore des yeux de flamme. Quand il aperçut la main bandée, il s'écria « Quoi donc, Guillaume, vous êtes blessé ?» Pierre se taisait, laissant son frère conter l'histoire telle qu'il lui plairait de la dire. Celui-ci avait compris qu'il devait avouer la vérité, simplement en omettant les circonstances. « Oui, dans une explosion, et je crois bien que j'ai le poignet cassé. » Berthereau l'examinait, remarquait ses moustaches brûlées, ses yeux de stupeur, où passait l'effarement des catastrophes. Il devint sérieux, circonspect, sans chercher par des questions à forcer les confidences. « Ah, bah, une explosion! Me permettez-vous de voir la plaie ? Vous savez qu'avant de me laisser séduire par la chimie, j'ai fait mes études de médecine et que je suis un peu chirurgien. » Pierre ne put retenir ce cri de son cœur. « Oui, oui, maître, voyez la blessure. J'étais bien inquiet. C'est une chance inespérée que vous vous trouviez là. » Le savant le regarda, sentit la gravité des circonstances qu'on lui cachait. Et comme Guillaume consentait avec un sourire en pâlissant de faiblesse, il voulut d'abord qu'on le couchât. La servante revenait dire que le lit était prêt. Tous passèrent dans la chambre voisine, où le blessé fut déshabillé et mis au lit. « Éclairez-moi, Pierre, prenez la lampe, et que Sophie me donne une cuvette pleine d'eau avec des linges. » Puis, lorsqu'il eut doucement lavé la plaie, « Diable ! Diable ! Le poignet n'est pas cassé, mais c'est une vilaine affaire tout de même. Je crains qu'il n'y ait une lésion de l'os. Ce sont des clous qui ont traversé les chairs, n'est-ce pas ?» Ne recevant pas de réponse, il se tut. Sa surprise croissait. Il se mit à examiner avec attention la main que la flamme avait noircie. Il finit même par flairer la manche de la chemise pour mieux se rendre compte. Évidemment, il reconnaissait les effets d'un de ces explosifs nouveaux, que lui-même avait si savamment étudié et, pour ainsi dire, créé. Mais, pourtant, celui-ci devait le dérouter, car il y avait là des traces, des caractères dont l'inconnu lui échappait. Alors, se décida-t-il à demander enfin, emporté par sa curiosité de savant, « C'est dans une explosion de laboratoire que vous vous êtes arrangé de cette belle façon. »« Quelle diablesse de poudre étiez-vous donc en train de fabriquer ?» Malgré sa souffrance, Guillaume, depuis qu'il le voyait étudier ainsi sa blessure, témoignait une contrariété, une agitation croissante, comme si le vrai secret qu'il voulait garder eût été là, dans cette poudre dont le premier essai venait de si cruellement l'atteindre. Il coupa court, il dit de son air de passion contenue, les yeux francs et droits, « Je vous en prie, maître, ne me questionnez pas, je ne puis vous répondre. Je sais que vous êtes un assez noble esprit pour me soigner et m'aimer encore, sans exiger ma confession. »« Ah, certes, mon ami !» s'écria Berthereau. « Gardez votre secret, votre découverte est à vous. Si vous en avez fait une, et je vous sais capable de l'employer au plus généreux usage. D'ailleurs, vous devez me savoir, vous aussi, bien trop passionné de vérité, résolu à ne jamais juger les actes des autres, quels qu'ils soient, avant d'en connaître toutes les raisons. » Et, d'un geste, il acheva de dire sa large tolérance, son esprit souverain, dégagé des ignorances et des superstitions, qui faisaient de lui, sous les ordres dont il était chamarré, sous ses titres universitaires et académiques de savant officiel, l'intelligence la plus hardie, la plus libre, uniquement passionnée de vérité, comme il le disait. Il n'avait pas les outils nécessaires, il se contenta de panser la plaie avec soin, après s'être assuré qu'aucune parcelle des projectiles n'était restée dans les chairs. Enfin, il partit, en promettant d'être là le lendemain de bonne heure. Et comme le prêtre l'accompagnait jusqu'à la porte de la rue, il le rassura. Si l'os n'avait pas été atteint trop profondément, tout irait bien. Pierre, de retour près du lit, y trouva son frère assis encore sur son séant, puisant une énergie dernière dans son désir d'écrire aux siens pour les rassurer. Il dut reprendre la lampe et l'éclairer de nouveau, après lui avoir donné du papier et un crayon. Heureusement, Guillaume avait le libre usage de sa main droite. Il put, en quelques lignes, annoncer qu'il ne rentrerait pas à Madame Leroy, sa belle-mère, qui était restée chez lui après la mort de sa femme et qui avait élevé ses trois grands-fils. En outre, Pierre savait qu'il y avait dans la maison une jeune fille de 25 à 26 ans, la fille d'un ancien ami de Guillaume, recueillie par celui-ci à la mort du père, et qu'il devait épouser prochainement, malgré la grande différence d'âge. Mais c'était là pour le prêtre des choses vagues et troublantes, tout un côté de désordre condamnable qu'il avait toujours faim d'ignorer. « Alors, tu veux qu'on porte tout de suite cette lettre à Montmartre ?»« Oui, tout de suite. Il n'est guère plus de 7 heures. Elle sera là-bas vers 8 heures. Et un homme sûr, n'est-ce pas ?»« Le mieux est que Sophie prenne un fiacre. Avec elle, on peut être sans crainte. Elle ne bavardera pas. Attends, je vais arranger cela. » Sophie, appelée, comprit, promit de dire là-bas, si on la questionnait, que M. Guillaume était venu passer la nuit chez son frère pour des raisons qu'elle ignorait. Et, sans faire aucune réflexion elle-même, elle s'en alla, après avoir dit simplement « Le dîner de M. l'abbé est servi, il n'aura qu'à prendre le bouillon et le ragoût sur le fourneau. » Mais cette fois, quand Pierre revint s'asseoir près du lit, Guillaume y était retombé sur le dos, la tête soutenue par 2 oreillers, très las, très pâle, envahi par la fièvre. La lampe brûlait doucement au coin d'un meuble. La paix était si profonde qu'on entendait battre la grosse horloge dans la salle à manger voisine. Un instant, ce grand silence régna autour des deux frères, enfin réunis et seuls, après tant d'années de séparation. Puis, le blessé avança au bord du drap sa bonne main, que le prêtre saisit, serra tendrement dans la sienne. Et cette étreinte se prolongea, et les deux mains fraternelles restèrent l'une dans l'autre. « Mon pauvre petit Pierre !» murmura très bas Guillaume. « Pardonne-moi de tomber ici de la sorte. J'envahis la maison, je prends ton lit, je t'empêche de dîner. « Ne parle pas, ne te fatigue pas davantage !» interrompit Pierre. Où veux-tu donc aller, si ce n'est ici, quand tu es dans la peine ? La main fiévreuse du blessé eut une pression plus chaude, tandis que ses yeux se mouillaient. Merci, mon petit Pierre, je te retrouve. Tu es doux et tendre comme autrefois. Ah, tu ne peux savoir combien cela m'est délicieux en ce moment. À leur tour, les yeux du prêtre s'obscurcirent. Les deux frères, au milieu de ce grand calme, de ce grand bien-être succédant à des émotions si violentes, éprouvaient un charme infini à se retrouver de la sorte dans la maison de leur enfance. C'était là que leur père et leur mère étaient morts, le père tragiquement foudroyé par une explosion de laboratoire, la mère très pieuse en véritable sainte. C'était là, dans ce même lit, que Guillaume avait soigné Pierre, lorsque, leur mère morte, lui-même avait failli mourir. Et c'était là que, maintenant, Pierre soignait Guillaume. Tout les brisait, les bouleversait d'attendrissement. Les circonstances imprévues de leur rencontre, l'affreuse catastrophe dont ils restaient ébranlés, le côté mystérieux des choses qui demeurait inexpliqué entre eux. Et, dans leur rapprochement tragique, après un temps si long de vie séparée, leurs souvenirs communs s'éveillaient. La vieille maison leur parlait de leur enfance, des parents disparus, des jours lointains où ils y avaient aimé et souffert. Le jardin était là, sous la fenêtre, jardin glacé à cette heure, qui, jadis ensoleillé, retentissait de leurs jeux. À gauche se trouvait le laboratoire, la grande pièce où leur père leur avait appris à lire. À droite, dans la salle à manger, ils revoyaient leur mère leur couper des tartines, si douces, avec ses grands yeux désespérés de croyante. Et la sensation qu'ils y étaient seuls à cette heure, et cette pâle clarté dormante de la lampe, et cette profonde solitude muette du jardin, de la maison, de tout le passé, les emplissaient d'une extraordinaire douceur, mêlée à une amertume immense. Ils auraient voulu causer, s'épancher, mais que se dire ? Malgré leurs mains qui restaient nouées étroitement, le plus infranchissable des abîmes ne les séparait-il pas ? Du moins, ils le croyaient. Guillaume avait la conviction que Pierre était un saint, un prêtre de la foi la plus solide, sans un doute, qui n'avait rien de commun avec lui, ni dans les idées, ni dans la pratique de l'existence. Un coup de hache les avait désunis, ils habitaient deux mondes différents. Et de même, Pierre s'imaginait Guillaume comme un déclassé, de conduite louche, n'ayant pas même épousé la femme dont il avait eu 3 enfants, sur le point de se remarier avec cette fille trop jeune, tombée on ne savait d'où. En outre, il y avait les idées exaltées du savant et du révolutionnaire, la négation de tout, les pires violences acceptées, provoquées peut-être, le monstre vague de l'anarchie entrevu au fond. Alors, sur quel terrain l'entente aurait-elle pu se faire, du moment que chacun des deux frères gardait son préjugé contre l'autre, le voyait au bord opposé du gouffre, sans qu'une planche pût être jetée entre eux. Et seul leur pauvre cœur sanglotait de leur fraternelle tendresse éperdue. Pierre n'ignorait pas que Guillaume avait déjà couru le risque d'être compromis dans une affaire anarchiste. Il ne lui posait aucune question. Mais il ne pouvait s'empêcher de songer qu'il ne se serait pas caché ainsi s'il n'avait eu la crainte d'être arrêté comme complice. Complice de Salvat, l'était-il donc vraiment ? Et Pierre frémissait, car il n'avait toujours pour se faire une opinion que les paroles échappées à son frère après l'attentat, le cri accusant Salvat de lui avoir volé une cartouche, l'acte aussi de s'être si héroïquement élancé sous le porche de l'hôtel du Villard afin d'éteindre la mèche. Seulement, que d'obscurités encore ! Et si on lui avait volé une cartouche de cet effroyable explosif ? C'était donc qu'il en fabriquait, qu'il en avait chez lui. Sans doute, avec son poignet blessé, même s'il n'était pas complice, il n'avait eu qu'à disparaître, jugeant bien que, trouvé là, la main sanglante, déjà compromis, jamais il n'aurait convaincu personne de son innocence. Mais, quand même, les ténèbres restaient épaisses. Le crime semblait possible. C'était une aventure affreuse. Guillaume dut deviner, dans le tremblement de la main droite, que son frère lui abandonnait un peu de l'anéantissement où tombait ce pauvre être, déjà foudroyé par le doute, et que la catastrophe achevait. Le sépulcre était vide, la cendre même en venait d'être balayée. « Mon pauvre petit Pierre, reprit-il lentement, excuse-moi si je ne te dis rien. Je ne peux rien te dire. Et puis, à quoi bon ? Nous ne nous entendrions certainement pas. Ne nous disons rien, ne goûtons que la joie d'être ensemble, et quand même de nous aimer toujours. » Pierre leva les yeux, et, longuement, leurs regards restèrent l'un dans l'autre. « Ah ! Bégaya-t-il, que les choses sont affreuses !» Mais Guillaume avait bien compris l'interrogation muette. Ses yeux y répondaient en ne se détournant pas, en s'allumant d'une flamme très pure, très haute. « Je ne peux rien te dire, » répéta-t-il. « Quand même, mon petit Pierre, aimons-nous. » Et Pierre, alors, le sentit un instant supérieur à toute inquiétude basse, à la peur du coupable qui tremble pour lui, exalté au contraire dans la passion d'un grand dessein, dans le souci noble de mettre à l'abri l'idée souveraine, ce secret qu'il voulait sauver. Et ce ne fut malheureusement que la brève vision d'un espoir indistinct de rachat et de victoire, car déjà tout sombrait, retombait au doute, au soupçon des intelligences qui s'ignorent. Un brusque souvenir, un exécrable spectacle, venait de s'évoquer et d'affoler Pierre. Il bégaya. « As-tu vu, mon grand frère, as-tu vu sous la porte cette enfant blonde étalée sur le dos, le ventre ouvert, avec son joli sourire étonné ?» À son tour, Guillaume frémissait, et d'une voix basse et pénible, « Oui, oui, je l'ai vu. Ah, le pauvre petit être ! Les atroces nécessités, les atroces erreurs de la justice !» Alors, dans l'horrible frisson de ce qui passait, dans son horreur de la violence, Pierre succomba, laissa tomber sa face parmi la couverture au bord du lit. Et il sanglota éperdument. Une crise soudaine, débordante de larmes, le jetait là, anéanti d'une faiblesse d'enfant. C'était, en lui, comme une débâcle de tout ce qu'il souffrait depuis le matin. La douleur immense de l'injustice, de la souffrance universelle qui crevait dans ce flot de pleurs que rien ne semblait plus devoir arrêter. Et bouleversé de même, Guillaume, qui avait posé la main sur la tête de son petit frère pour le calmer, du geste dont il caressait autrefois ses cheveux d'enfant, se taisait, ne trouvant pas de consolation, acceptant l'éruption du volcan toujours possible, le cataclysme qui peut toujours précipiter l'évolution lente dans la nature. Mais quel sort pour les misérables créatures, pour les existences que les laves emportent par milliards. Et ses yeux se mirent aussi à ruisseler au milieu du grand silence. « Pierre, finit-il par dire doucement, je veux que tu dînes, va. Va dîner, cache la lumière de la lampe, laisse-moi seul, les yeux clos, cela me fera du bien. » Il fallut que Pierre le contentât, mais il ne ferma pas la porte de la salle à manger, et, défaillant de besoin, sans même s'en être aperçu, il mangea debout, l'oreille aux aguets, écoutant si son frère ne se plaignait pas, ne l'appelait pas. Le silence semblait encore avoir grandi. La petite maison s'anéantissait dans la mélancolique douceur du passé. Vers 8h30, lorsque Sophie revint de sa commission à Montmartre, Guillaume l'entendit, malgré son pas discret. Il s'agita, voulut savoir, et ce fut Pierre qui accourut le renseigner. « Ne t'inquiète pas, Sophie a été reçue par une vieille qui, après avoir lu ta lettre, lui a dit simplement que c'était bien. » Elle ne lui a pas même posé une question, l'air tranquille, sans curiosité aucune. Guillaume, sentant son frère étonné de cette belle sérénité, se contenta de dire, très calme lui aussi, « Oh, il suffit que Mère Grand soit prévenue. Elle sait bien que si je ne rentre pas, c'est que je ne puis pas. » Mais il lui fut impossible de s'assoupir. La lumière de la lampe avait beau être cachée, il rouvrait les yeux, regardait autour de lui, semblait écouter au-delà des murs, vers Paris. Il fallut que le prêtre fît venir la servante, puis l'interrogea, pour savoir si, en se rendant à Montmartre, elle n'avait rien remarqué d'extraordinaire. Elle parut surprise, elle n'avait rien remarqué. D'ailleurs, le fiacre avait suivi les boulevards extérieurs, presque déserts. Un petit brouillard s'était remis à tomber et les rues se noyaient sous une humidité glaciale. À 9h, Pierre comprit que son frère ne dormirait pas s'il le laissait ainsi sans nouvelles. Dans la fièvre commençante, le blessé s'angoissait, envahi par le besoin qui le hantait de savoir si Salva était arrêté et s'il avait parlé. Il ne l'avouait pas, il paraissait n'avoir aucune inquiétude personnelle. Et c'était vrai, sans doute. Mais son grand secret l'étouffait. Il frémissait à la pensée qu'un si haut dessein, tant de travail et tant d'espoir, fussent à la merci de cet halluciné de la misère, voulant rétablir la justice à coups de bombe. Vainement, le prêtre tâcha de lui faire entendre qu'à cette heure, on ne pouvait encore rien savoir. Il le vit d'une telle impatience, accrue de minute en minute, qu'il se décida à tenter au moins un effort pour le satisfaire.